Avez-vous déjà posé la question suivante? Est-ce que Dieu accueille tous ceux qui viennent à lui? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qui pourra transformer votre vie, chers auditeurs, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je vous encourage à bien écouter les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Et surtout, soyons tous attentifs aux réponses que Dieu va nous donner. On en a réellement besoin. Alors voici les questions. Est-ce que toutes les Écritures s'adressent à nous? Sur quoi est-ce qu'une application d'un texte de la Bible doit reposer pour être valable? Pouvons-nous fonctionner sans la miséricorde de Dieu? Est-ce que la joie des croyants attire les gens à Jésus-Christ? Quel doit être notre but premier dans nos efforts missionnaires? Est-ce que Dieu accueille tous ceux qui viennent à lui? Est-ce qu'un croyant peut se permettre d'être indifférent aux choses du royaume de Dieu? Est-ce que les croyants ont tous reçu un don? Comment pouvons-nous être certains d'avoir la vie éternelle? Devons-nous prier et adorer publiquement? Demeurez à l'écoute. Le Seigneur va nous enseigner sa parole par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants, et il va répondre à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Comme c'est bon de savoir qu'on peut prier en tout temps, Seigneur, et que tu nous entends à chaque fois que notre cœur, que notre bouche se répand devant toi. On a besoin de toi, Seigneur, on a besoin de ta parole. Enseigne-nous toi-même par la bouche de ton serviteur aujourd'hui. Touche nos cœurs profondément, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, le psaume 67 révèle le but ultime de Dieu pour la terre. C'est un psaume qui décrit le royaume de Dieu. Certains le voient comme un psaume missionnaire, ce qui n'est pas entièrement faux. Mais J. Vernon McGee, ainsi que de nombreux érudits, le considèrent comme un psaume prophétique qui annonce le millénium. À ce moment-là, le monde sera converti et restauré, et Dieu bénira son peuple alors qu'il sera craint sur toute la terre. Voici quelques principes d'interprétation biblique. Maintenant, il faut distinguer l'interprétation des Écritures de leur application. Plusieurs oublient une règle élémentaire d'interprétation. Toutes les Écritures nous parlent, mais toutes les Écritures ne sont pas adressées à nous. Par exemple, certaines lois de l'Ancien Testament s'adressaient strictement à Israël, établi dans la terre promise. Mais, en les étudiant, nous y découvrons des principes de justice qui peuvent nous guider. Les lois étaient adressées à Israël, mais elles nous parlent. Le psaume 67 ne s'adresse pas à nous, mais il nous parle en présentant des principes que l'on peut appliquer aux efforts missionnaires de l'Église. Nous ne pouvons pas donner toutes sortes d'interprétations à un texte biblique. Nous devons l'étudier et l'examiner dans son contexte biblique, historique et culturel pour comprendre ce qu'il dit vraiment. Cependant, nous pouvons appliquer les principes que nous en tirons à tous les croyants de tous les temps. L'application d'un texte est élastique, alors que l'interprétation ne l'est pas. Une application doit reposer sur l'interprétation juste du texte pour être valable. Lorsque vous lisez les psaumes et qu'ils parlent à votre cœur, c'est qu'ils s'appliquent à votre situation ou à votre vie. Considérons les sept lettres adressées aux églises d'Asie au début de l'Apocalypse. Elles s'adressent à sept églises locales qui existaient et traitent de situations que vivaient les membres de ces églises. Mais nous lisons aussi que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse, chapitre 3, verset 13. Le Seigneur Jésus nous parle à travers ces situations locales. Nous pouvons vivre des situations semblables à celles des sept églises. Sans être un psaume missionnaire, le psaume 67 contient des principes applicables aux efforts missionnaires de l'Église. Chers amis, débutons notre lecture du psaume 67, versets 1 et 2. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume, cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Pause. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Il est légitime de prier pour nous individuellement, mais prier collectivement pour les bénédictions de Dieu est aussi acceptable. Nous ne pouvons fonctionner sans la miséricorde de Dieu. Notre pèlerinage sur terre ne peut se faire sans la miséricorde de Dieu. Cela est vrai individuellement et collectivement. Le Seigneur Jésus a dit, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » L'Évangile selon Jean chapitre 15, verset 5. Nous devons donc l'implorer pour sa miséricorde et ses bénédictions. Et lorsque cela est fait selon la parole et d'un cœur sincère, les bénédictions ne tardent pas à suivre nos prières. Verset 7. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Votre joie attire-t-elle les gens à Jésus-Christ? Des individus et ou un peuple que Dieu bénit sont dans la joie et l'allégresse. Le monde perçoit que ceux qui appartiennent à Dieu sont différents. Cela attire les personnes au Seigneur Jésus, surtout lorsque les gens nous demandent la source de notre joie. Nous devrions être comme le soleil, rayonnant de joie, rayonnant de sa beauté. Versets 4 et 5. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Pause. Plus nous louons Dieu, plus il nous envoie ses bénédictions, et alors nous louons Dieu encore davantage. C'est comme les anciennes pompes manuelles utilisées pour puiser l'eau des puits. Lorsque l'eau du puits baissait trop, il fallait mettre un peu d'eau dans la pompe pour l'amorcer. Lorsque la pompe était amorcée, nous pouvions puiser toute l'eau que nous désirions. L'eau versée dans la pompe ne servait pas à remplir le puits, mais à nous permettre de puiser dans celui-ci. Verset 6. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Si la louange et les actions de grâce sont une mesure de notre piété, nous devons reconnaître qu'il y a peu de piété dans notre société contemporaine. L'Évangile est une source de bonheur sur la terre. S'il n'y a pas d'expression de ce bonheur, que produit la parole de Dieu dans votre cœur? Se peut-il que vous n'ayez pas encore vécu la véritable relation établie par son Esprit? Verset 7. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Puisque Dieu est la première cause de tout ce qui existe, il contrôle les causes secondaires. Dieu bénit son peuple et ceux qui lui appartiennent. Seul Dieu peut amener la terre à produire. Verset 8. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Quel est le premier objectif d'un effort missionnaire? Que pensez-vous qu'est le premier objectif de nos entreprises missionnaires? Vous êtes peut-être tenté de répondre que c'est sauver des âmes. Il est vrai que des âmes sont sauvées par nos efforts missionnaires, et il est normal qu'il en soit ainsi. Cependant, ce n'est pas le but premier des missions. Peut-être pensez-vous que le but premier est de prêcher la parole afin que tous obéissent à Jésus-Christ. Dieu nous a effectivement ordonné de prêcher la parole à toutes les nations et de faire des disciples. Relisons les versets 6 et 8. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Voilà, le premier but de nos entreprises missionnaires est que le peuple loue Dieu, les peuples louent Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit être la locomotive qui tire les wagons de tous nos efforts missionnaires. De cela découle la prédication de la parole afin que les gens soient sauvés. Je pense que nous oublions souvent que notre but premier est de glorifier Dieu. Dieu nous a créés afin que nous le glorifions et que nous ayons une relation intime avec lui. Nous le glorifions en proclamant sa parole afin que des âmes soient sauvées. Le psaume 68 célèbre la libération et la victoire du peuple de Dieu. Au psaume 67, nous avons vu leur royaume, et maintenant nous voyons le roi puissant couronné de gloire. Débutons notre lecture, le psaume 68, versets 1 et 2. Au chef des chantres, de David, psaume, cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Ce verset fait allusion à Nombre 10, verset 35. Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Ce sont les paroles que Moïse prononçait chaque fois que l'arche se mettait en marche pour guider le peuple. Ce psaume est un chant de triomphe et de gloire. Christ marche devant nous. Revenons au psaume 68, verset 3. Comme la fumée se dissipe, tue les disciples. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Les humains ne sont rien devant Dieu. Voyez avec quelle aisance il éliminera ses adversaires. Nous nous pensons puissants et intelligents. Beaucoup disent que nous n'avons pas besoin de Dieu. Mais ce sont ceux qui se seront appuyés sur Dieu qui triompheront et qui se réjouiront. Verset 4. Mais les justes se réjouissent, et ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Les justes chantent non pour donner un spectacle, non pour bien paraître en public, mais pour être entendus de Dieu. Lorsque nos cantiques sont ennuyeux, c'est que nous sommes devenus des formalistes. Notre joie devrait convenir au grand salut que Dieu nous a donné, ainsi qu'à ses nombreuses bénédictions. Si nous l'aimons, cela se reflétera. Notre amour se manifeste à l'égard de la bonté de Dieu. Verset 5. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Nous voyons que l'homme doit glorifier Dieu, comme nous l'avons mentionné au psaume précédent. Un jour, le Seigneur Jésus reviendra, et toute la terre le glorifiera face à face. Versets 6 et 7. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Dieu accueille tous ceux qui viennent à lui. Chers amis, souffrez-vous d'injustice? C'est à Dieu qu'il faut vous adresser. Notez que Dieu ne cherche pas l'admiration et l'approbation des grands de ce monde. Il bénit les orphelins, les veuves et les captifs. Il sauve aussi des grands de ce monde, des personnes riches ou puissantes. Cependant, l'orphelin et la veuve ont autant d'accès au trône de la grâce que les riches et les puissants. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il accorde ses bénédictions gratuitement et il se réjouit lorsque l'on vient à lui. Non seulement est-ce que Dieu accueille ceux qui viennent à lui, mais il est plus facile d'accès que nos politiciens, nos députés, le premier ministre, le gouverneur général et même la reine. Dieu est accessible à tous. Poursuivons notre lecture. Versets 8 à 14. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, pause. La terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays, que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est d'un jaune d'or. Êtes-vous indifférent à la cause de Dieu? Tandis que vous reposez au milieu des étables. Ces paroles furent prononcées par Déborah, qui reproche à la tribu de Ruben de ne pas avoir participé au combat qui a libéré Israël de la main de Jabin, roi de Canaan. Ruben fut indifférent et égoïste dans cet épisode de l'histoire d'Israël. Lorsque le Seigneur Jésus vint, Israël fut indifférent et ne le reçut pas. Un reste seulement reçut le Seigneur et contribua à la propagation de l'Évangile. Chers amis, où êtes-vous? Cachés dans les étables ou au front avec votre Seigneur et Sauveur, marchant derrière lui? Êtes-vous indifférent au royaume de Dieu ou profitez-vous de ses bénédictions? Ce psaume pourrait être appelé le psaume de l'ascension, puisque dans l'Épître aux Éphésiens nous lisons « C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Éphésiens chapitre 4, verset 8. Revenons au psaume, et cette fois, lisons le verset 19. « Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as reçu des dons pour l'homme, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. » Oui, chers amis, les croyants ont tous reçu un don. Certaines versions de la Bible sont traduites ainsi. « Tu as fait des dons aux hommes. » L'usage que fait Paul de ce verset dans l'Épître aux Éphésiens appuie cette traduction. Alors qu'il est retourné auprès du Père, le Seigneur Jésus a fait deux choses. Premièrement, il a amené avec lui en présence de Dieu tous les saints qui étaient morts dans le passé. Jusque-là, Dieu sauvait à crédit, en attendant que Jésus paie le rachat des âmes. Deuxièmement, il a donné des dons aux hommes afin qu'ils puissent accomplir la mission qu'il leur confie. Tous les individus qui font partie du corps de Christ ont reçu au moins un don. Cependant, ils n'ont pas tous reçu le même don. Poursuivons notre lecture du psaume 68, versets 20 et 21. « Béni soit le Seigneur chaque jour. » Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Pause. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir la mort. Dieu délivre les siens. L'histoire d'Israël et de l'Église le démontre. Dieu a secouru David à plusieurs reprises, et il a protégé le prophète Jérémie. Il a envoyé un ange pour sortir Pierre de prison. Il est souvent intervenu en faveur de Paul. Lorsque nous servons Dieu, il nous protège, parfois même à notre insu. Lorsque Dieu a empêché Balaam de maudire son peuple, Israël ignorait tout de ce danger. Chers amis, êtes-vous assurés d'avoir la vie éternelle? C'est merveilleux de voir les délivrances physiques que Dieu accorde à ses serviteurs. Cependant, Dieu garantit aux croyants qu'il n'y aura pas de mort spirituelle pour eux. Ils n'iront pas en enfer pour l'éternité à cause de leurs péchés. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés, et Dieu a promis le salut à ceux qui se repentiraient et qui croiraient en son Fils. Un des larrons crucifiés avec Jésus s'est tourné vers Jésus et il a mis sa confiance en Jésus. Celui-ci lui dit qu'il serait au paradis le jour même. Avez-vous reçu l'esprit d'adoption qui vous assure que vous êtes enfant de Dieu? Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains chapitre 8, versets 14 et 15. Une simple foi placée en Jésus-Christ, qui a donné sa vie en rançon pour la nôtre, nous garantit de la mort spirituelle. Chers amis, êtes-vous assurés d'avoir la vie éternelle? Avez-vous reçu le don gratuit de Dieu? Versets 22 et 23. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, « Je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai du fond de la mer. » Lorsque viendront la grande bataille et la victoire définitive du Seigneur Jésus, ce sera le sommet de la tête de l'Antéchrist qui sera brisé. Les projets de l'Antéchrist échoueront. Dieu rassemblera son peuple et le restaurera. Poursuivons la lecture du psaume 68, versets 27 à 30. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Le formalisme des uns n'exempte pas les autres de l'adoration collective. Pour certaines personnes, la prière et l'adoration publique ne sont qu'un rituel, une formalité. Leur cœur n'est pas dans ce qu'ils font. Même si certains abusent de l'adoration collective, nous devons tout de même prier et adorer publiquement. Nul n'est exempt de ce devoir. Ceux qui le font par amour pour Dieu en sont bénis. Nous devons glorifier Dieu. Nul tribu ou famille ou chef du peuple ou simple citoyen ne peut être exempté de ce devoir. Tous sont appelés à adorer ce grand Dieu. Verset 31. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples, qui se prosternent avec des pièces d'argent, disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. L'animal des roseaux est probablement un crocodile. Cette bête était sacrée en Égypte. Dans le pays de Canaan, ainsi que dans les pays voisins, souvent Dieu était représenté par un veau. D'ailleurs, Aaron avait fabriqué un veau lors de la sortie d'Égypte, et le royaume du Nord avait aussi fabriqué deux veaux pour rendre un culte à Dieu. Donc, dans ce verset, Dieu condamne l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous observons un retour au paganisme. Les gens ne voient plus la science comme un dieu. Elle a déçu les gens. Elle a servi à fabriquer les armes nucléaires ainsi que d'autres armes de destruction massive. Les gens se détournent de l'athéisme, mais ils ne reviennent pas nécessairement au christianisme. Dieu n'a jamais approuvé l'idolâtrie. Chaque fois qu'Israël s'est détourné de Dieu, ce fut pour se tourner vers l'idolâtrie. Dieu a châtié les idolâtres sévèrement, et il ne sera pas plus tendre avec les idolâtres impénitents de notre société contemporaine. Gardons-nous des idoles, chers croyants. Chrétiens, adorons Dieu, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Poursuivons et terminons notre lecture, les versets 32 à 36. Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Pause. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux antiques. Voici, il fait entendre sa voix, sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Si nous avons besoin de force et de puissance, n'oublions pas que Dieu est la seule source à laquelle nous pouvons en puiser. Oui, chers amis, nous n'avons ni force ni puissance, mais nous avons tous un grand Dieu puissant. Écoutez ce texte de l'Évangile selon Marc, chapitre 10, versets 26 et 27. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Vous voulez être sauvés ? Seul Dieu a le pouvoir de faire de vous son enfant. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant cette fois les psaumes 69 à 72. Bonne lecture!
Merci, Régent. Mes amis, je suis tellement heureuse que Dieu nous ait rappelé le but premier de nos efforts missionnaires aujourd'hui. Souvent, quand on fait des efforts collectifs pour annoncer l'Évangile aux gens, on est porté à regarder les résultats, à dire, par exemple, « Aujourd'hui, j'ai eu 3 professions de foi. » Oh, comme on est enclin à l'orgueil. On a eu l'heure juste dans le message d'aujourd'hui. Le but de nos entreprises missionnaires est que les peuples louent Dieu, Notre but, c'est la gloire de notre grand Dieu merveilleux. Régent a mentionné que cette gloire doit être la locomotive qui tire les wagons de tous nos efforts missionnaires. De cela découle la prédication de la parole, afin que les gens soient sauvés. Mais on oublie souvent que notre but premier est de glorifier Dieu. Il nous a créés pour sa gloire et pour qu'on ait une relation intime avec lui. On le glorifie en proclamant sa parole, afin que des âmes soient sauvées, bien sûr. Lors des campagnes d'évangélisation, et tout simplement quand je présente l'Évangile à quelqu'un de mes connaissances, je ressens toujours une joie particulière. Que les gens acceptent ou rejettent l'Évangile, j'ai la joie de l'annoncer, sachant que j'obéis au Seigneur Jésus, qui a dit à ses disciples dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, des versets 1 à 9. Dans ce passage des Écritures, Jésus nous dit de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis il nous dit de partir, et il nous ordonne de leur dire que le royaume de Dieu s'est approché de lui. Quelle joie! Simplement d'obéir au Seigneur Jésus, notre Sauveur merveilleux, qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Quelle joie de chercher sa gloire, la gloire de celui qui était bien auprès de son Père dans le ciel, mais qui s'est humilié dans un corps comme le nôtre, dans le but de venir nous racheter, en prenant sur lui la condamnation qu'on méritait tous pour nos péchés. Oh mon frère, ma sœur, cette semaine, as-tu parlé à un membre de ta famille qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus? As-tu parlé à un voisin, à un collègue, à un ami, de l'amour merveilleux de ton divin Sauveur? Si oui, gloire à Dieu! Encourageons-nous mutuellement à glorifier notre grand Dieu en disant à tous ceux qui nous entourent qu'il les a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, ils ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Je trouve ça extraordinaire de savoir que je méritais l'enfer à cause de mes péchés, et qu'au lieu de l'enfer éternel, j'ai reçu la vie éternelle, et c'est gratuit. Oh, merci, Seigneur Jésus, d'avoir pris ma condamnation sur toi, d'avoir tant souffert pour moi. Merci, Jésus, d'avoir pensé à moi dans ton plan éternel pour que je puisse passer cette éternité avec toi. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir amené à la repentance, de m'avoir fait voir mon état de pécheresse perdue. Et merci de m'avoir pardonné. Merci quand j'ai dit, Seigneur, sauve-moi, tu l'as fait, tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie éternelle. Ô Dieu, je te demande de sauver toutes ces personnes que j'aime tellement. Sauve-les. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Mmh. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens. Combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.